C'est bon, non? Bien. Alors, avant de commencer, donc je renouvelle une annonce, enfin, je fais une annonce concernant un rassemblement qui se fera ici avec le groupe GBU, groupe biblique universitaire. Et ça sera le mardi 26 novembre, si je ne me trompe pas. Mardi 26 novembre, ici, donc on leur laisse la salle pour qu'ils puissent se rencontrer. Il y aura un débat où je suis invité moi-même à débattre avec eux donc sur le thème liberté ou pseudo-liberté. Qu'en dit la Bible. Le but, c'est nous sommes vraiment libres en dehors de Christ. Est-ce que la liberté qu'on nous annonce, qu'on nous prend, qu'on parle ici dans la société, est-ce que c'est la vraie liberté? Donc voilà, l'idée là, ce sera une intervention d'une demi-heure. Après, il y aura un débat avec les étudiants. Bien entendu, les étudiants sont, c'est eux qui organisent, mais ils invitent tous les frères et sœurs, croyants ou pas croyants ici, pour débattre. Et notre Église est amenée à les accueillir, et par conséquent, donc, je pense qu'ils seraient aimable, gentil et accueillant, si nous nous préparons quelques gâteaux pour eux pour la fin de la soirée. Comme ça, ils peuvent partager ces petits gâteaux, ces petits sucrés, salés, je ne sais pas quoi, comment dire ça. Voilà. Donc, ça sera le 26 novembre. Ils seront là à 18h45 pour manger entre eux, mais la conférence, enfin, le débat commence à 19h30 et se poursuivra jusqu'à 21h. Voilà, ça, c'est fait. Alors, aujourd'hui, bon, on ne va pas déroger à la règle parce que si vous avez remarqué, je reviens toujours à la même chose. C'est plus fort que moi, parce que je peux prêcher sur la paix, je peux prêcher sur le mot prêcher, annoncer, discuter, échanger, si vous voulez, sur la prière, si vous voulez, je peux vous parler du baptême du Saint-Esprit, je vous parler des dons, je vais vous parler tout cela, mais en fait, tout cela est contenu dans une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que je suis amené à partager avec vous un sujet, et bien le centre, ça sera Christ, et Christ seul. Et Christ n'a de sens que parce qu'il est passé à la croix. Là encore, on parle de Christ et de la croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a rien. Donc on peut parler de la prière, on peut faire des études théologiques, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas cette croix et ce Christ, il n'y a rien d'autre. Et si je suis là parmi vous en tant que chrétien depuis une trentaine d'années, c'est parce qu'il y avait la croix et parce qu'il y avait Christ. Parce que le Christ, il est reconnu par les différentes religions. Mais il n'est pas reconnu en tant que fils de Dieu qui a s'est sacrifié sur la croix. Et quand on met de côté cette croix, on met tout à côté. Donc, sans croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Alors, le titre de l'intervention aujourd'hui, c'est Christ, notre identité céleste. Christ, notre identité céleste. Notre vraie identité, peut-être j'ai une nationalité, vous l'avez aussi, mais notre vraie identité, l'identité à laquelle nous sommes appelés, c'est la nationalité céleste. C'est être céleste. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 3, nous lisons. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre réalité, on se rend même pas, le monde ne se rend même pas compte, elle est cachée en Dieu, en Christ. Et tant que l'être humain n'a pas réalisé cette identité-là, il demeure malade, il demeure aliéné. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Notre vie correspond à notre identité divine. Notre identité divine réside en Christ, en Dieu. Tout à l'heure, j'ai lu un passage qui m'a parlé où nous sommes créés à l'image de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Vous avez lu cela. Nous sommes créés à l'image de Dieu. En fait, la traduction, quand on prend l'hébreu, c'est nous sommes en devenir, nous sommes appelés à devenir à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous a créés, quand il a créé l'homme, l'être humain est créé pour devenir à l'image de Dieu, à la différence de l'animal. Un chien ne cherchera plus qu'à être un chien. Un animal ne cherchera pas autre chose que de rester un animal. Mais nous sommes appelés à devenir des petits Christ s'il le faut. Et pourtant, l'être humain fait comme l'animal. Il veut absolument à rester animal en se satisfaisant lui-même, en devenant même le centre du monde. Et pourtant, nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Notre identité divine réside en Christ, en Dieu. Dieu ne reconnaît l'humanité qu'en Christ. Dieu est spirituel, Dieu est éternel. Mais quand il nous regarde, il nous regarde à travers Christ. Il nous voit déjà en devenir. C'est glorieux pour tous les chrétiens. Quand on réalise cela, c'est tellement énorme que ça dépasse les capacités intellectuelles. Dieu ne veut voir dans l'humanité qu'une seule chose, Christ, son Fils unique. C'est une réalité très importante, car tout ce qui se positionne hors de Christ est rejeté par Dieu. Et c'est là que je dis que souvent, quand on dit « celui qui n'est pas croyant, il sera puni par Dieu », mais je dis « mais c'est une conception humaine encore ». Où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Mais seulement, quand on est hors de Dieu, on est par définition hors de, puni nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est jugé. Le fait de ne pas croire en Dieu, on se rejette soi-même. C'est déjà un jugement en soi. Vous voyez? Parce que notre réalité, notre devenir, le pourquoi de la création de l'homme et de la femme, c'est de s'unir à son Dieu. La logique divine ne trouve son écho et son harmonie qu'en Christ, mort et ressuscité, qui est non seulement notre modèle par excellence, mais notre chemin, notre vérité et notre vie. Et je ne fais que répéter Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette réalité condamne le monde. Le fait de dire que tout ce qui est hors de Dieu n'a pas de sens, le monde se condamne lui-même. Le monde qui ne croit pas en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle met aussi le chrétien, elle nous met nous, chrétiens, devant nos responsabilités. Nous, chrétiens, qui des fois nous ne mettons pas le Christ au centre de notre vie quotidienne, de notre vie quotidienne. Il ne faut pas se contenter de regarder le monde et le juger par la parole de Dieu, car il faut porter ce jugement sur nous-mêmes, sur chacun de nous. Qu'en est-il de nous, chrétiens? Qu'en est-il de moi en tant que chrétien? En tant que chrétien, je peux proclamer avec une totale assurance que je suis en Christ et que Christ est en moi. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons le même Christ en chacun de nous. Du moment que je suis né de nouveau, dès que nous sommes de nouveau, dès que nous avons ouvert notre cœur à Dieu, nous avons reçu Christ, nous avons reçu l'Esprit Saint, que nous le sentions ou pas. J'ai reçu Christ en entier, dans mon être intérieur. Cet être intérieur est créé sous forme d'un vide en l'homme, qui est destiné à Christ et uniquement à Christ par le biais du Saint-Esprit. Et c'est la lecture du passage tout à l'heure de Genèse 2:7. Dieu forma l'homme et souffla dans ses narines un souffle de vie. Dans la traduction encore hébreu, c'est en fait, si on traduit, c'est « il a créé un vide dans l'homme ». Dès la création de l'être humain, il y a un vide qui s'est créé. Et ce vide, il est créé comme un aimant qui l'attire vers son créateur. Tout être humain qui est sur terre est attiré vers son créateur. C'est inné, c'est naturel, c'est chez tout le monde, ça. Mais seulement ce vide, tant qu'il n'est pas comblé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, on tâtonne, on cherche, il y a les religions, il y a par-ci, par-là. Mais le jour où ce vide est comblé par Dieu, par l'Esprit Saint, d'un seul on se dit « Ah, je comprends maintenant pourquoi je suis créé. » Donc, le devenir de l'homme, c'est pas un accident dans l'Ancien Testament. On dit, dans la Genèse, on dit « Ah, tiens, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. » Il les a placés dans un jardin qu'on appelait Éden, et encore ce mot-là, on peut disserter dessus pendant longtemps. Et tiens, d'un seul coup, Adam et Ève ont péché. Ah, et Dieu ne s'est pas rendu compte que Adam et Ève ont péché. Et du coup, il s'est gratté la tête, il s'est dit, « Moi, maintenant, je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je trouve une solution. » Ah, mais tiens, la solution, eh ben, je vais envoyer mon fils pour mourir et pour rétablir la situation. Dire cela, c'est manquer de respect à notre Créateur. Dire cela, je vais plus loin, c'est insulter notre Dieu. Comme si Dieu nous ramène à notre façon de penser, un accident, remédier à l'accident. Non, pas du tout. L'homme, dès qu'il est créé dans l'Ancien Testament, dès qu'il est créé, il est destiné à rencontrer son Créateur. Et pour rencontrer son Créateur, il faut que son vide soit comblé par l'Esprit de Dieu. Et pour qu'il soit comblé, il faut qu'il y ait une coupure. Et cette coupure, elle le coupe de sa nature. La nature divine, c'est l'œuvre de la croix. La croix n'a jamais été une solution palliative à nos problèmes. La croix est le centre du plan de Dieu. Tout passe par la croix. Depuis la création de l'être humain, du monde, jusqu'à la venue de Christ, jusqu'à nos jours, la croix était là pour nous ramener vers le but voulu de tout temps par Dieu, c'est-à-dire nous amener à devenir à son image. Bien entendu, je n'ai pas reçu le Christ historique quand on s'est converti. On n'a pas reçu en nous le Christ historique. Souvent, en tant que chrétien, on pense au Christ historique il y a 2000 ans. Mais pas du tout. Le Christ lui-même, il a dit, il vaut mieux pour vous que je monte au ciel. Parce que quand je monterai au ciel, je vous envoie le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Si Christ n'était pas monté sur la croix, s'il était resté avec nous, aujourd'hui, on vivrait une religion, comme la religion de laquelle je viens. Une religion où Dieu est là-bas, je suis là, je dois m'efforcer pour arriver à. Je vais faire tous les efforts pour plaire à Dieu. Or, par ma nature, je ne peux pas plaire à Dieu. Donc la meilleure façon, c'est que notre nature, elle passe par un brisement, par ce que le Christ a fait sur la croix. Et quand on passe par ce brisement, notre nature est remplacée par celle de Christ, mais ce n'est pas le Christ historique. C'est le Christ que j'appelle Christ Esprit Saint, c'est l'Esprit. C'est le Christ spirituel qui est en nous, qui est dans l'Église. Comme je l'ai dit, Jésus a dit lui-même, il vaut mieux que je monte vers mon Père parce que je vous enverrai le Consolateur. Par ma nouvelle naissance, j'ai acquis l'identité céleste. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. 1 Jean 5, 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Il ne s'est pas dit avec son Fils. Il faut faire attention aux mots. C'est dans son Fils. Ce n'est pas Christ là-bas, je suis là. C'est ensemble. C'est ça la vie chrétienne. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Je ne peux pas vivre en côtoyant Christ, je n'ai pas la vie. Si je vis en communion avec Christ, j'ai la vie. Mais en dehors de cette communion, on n'a pas de vie. On a un semblant de vie, mais qui n'est pas la vie, avec un V majuscule. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Et cela, ça, c'est un message pour toutes les églises qui existent sur terre, qui sont basées sur leur dénomination. On met la dénomination devant, ou les origines, je ne sais quoi. Dieu nous dit, il n'y a plus de tout ça. Il n'y a que Christ qui est tout en tous. Dieu unit, l'homme divise. C'est pour ça que nous sommes appelés à quitter cet état d'homme charnel, l'ancien Adam, pour laisser Christ régner en nous, parce que le seul qui peut s'unir à lui-même. Colossiens 1, verset 27. Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations. C'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'espérance si on n'a pas Christ en nous. J'insiste sur le EN, en nous, communion. Souvent on met avec. Je vais commencer à détester l'expression avec. Tellement on met de côté la communion. Nous ne sommes pas appelés à une relation. Le mot relation a donné relégaré religion. Nous sommes appelés à une communion. Et je vais même plus loin. Communion, ça veut dire comme une union. Nous sommes appelés à une union avec Christ. Et c'est déjà fait. Nous l'avons. Et c'est ça la bonne nouvelle. Je rappelle encore une fois, le diable fera tout pour dire, vous tendez vers. Non, nous sommes déjà en communion avec Dieu dans l'esprit. Et c'est pour ça que nous lui rappelons sa défaite, il est déjà vaincu à la croix. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous ? 2 Corinthiens 13, 5. C'est exactement l'interpellation que nous sommes en train de faire. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous ? J'ajoute. Vous continuez à courir derrière Jésus ? Et la Bible dit qu'il est en vous ? C'est très parlant. Mon identité céleste est obtenue lorsque j'ai accepté de recevoir le Seigneur Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Si nous avons reçu le Seigneur, ce qu'on appelait la conversion, encore ce mot, je ne l'aime pas trop. Si nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, nous avons Christ. Le diable fera tout pour dire, êtes-vous sûr de l'avoir reçu? Comme il a fait avec Ève dans le jardin. Nous l'avons reçu, la parole le dit. Que je le sente, que je ne le sente pas. Que j'ai des frissons, que je ne les ai pas. C'est comme des fois on ramène le vieux chrétien à des frissons. Voyez. Donc la foi, ce n'est pas des sensations. La foi, c'est une ferme assurance en soi. Quand je me suis converti, j'ai reçu Christ en moi, j'ai l'Esprit en moi. Même si je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mon identité céleste est obtenue lorsque j'ai accepté de recevoir le Seigneur Jésus comme mon Sauveur, Seigneur. Une attitude que j'ai formalisée par deux actes. Confession verbale devant Dieu, devant les hommes, devant les puissances célestes et surtout devant le diable. C'est-à-dire le témoignage que j'ai fait, que ce soit dans ma chambre, tout seul. Que j'ai fait devant les autres, mais au moins il y a eu cette confession. Et le deuxième acte, C'est l'accomplissement d'un acte symbolique, comme la Sainte Cène, c'est symbolique, il n'y a rien de miraculeux. C'est symbolique, mais indispensable, qu'il ne faut surtout pas négliger le baptême d'eau, par immersion bien entendu, parce que c'est tout mon être qui doit rentrer dans l'eau, c'est-à-dire j'annonce ma mort entière, et quand je sors de l'eau, c'est la vie de Christ qui prend la place. Le diable fera tout pour empêcher ces deux démarches instaurées par Dieu, en les minimisant, car ces actes publics annoncent une nouvelle naissance dans un monde céleste où le diable est vaincu, et la mort à un monde terrestre où le diable agit de nos jours encore, avec subtilité. Dès ma nouvelle naissance, Dieu m'a accordé son Esprit Saint. Ceci est vrai, même si je ne sens rien et même si je ne vois rien. D'ailleurs, le Seigneur l'a rappelé à Thomas. Rappelez-vous Thomas quand il s'est présenté vers la résurrection. Il voulait dire, Seigneur, je veux bien croire en toi, mais je vois les trous, je veux les toucher, les trous dans tes mains. Nous ne faisons pas la même chose dans notre vie, pas de la même manière. Mais nous demandons autre chose, nous voulons des preuves. Je crois à ce que je vois. Ça, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Thomas ? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dès ma nouvelle naissance, j'ai reçu la vie éternelle. Dès ma naissance, je reviens à la vie éternelle. Il suffit de lire, encore une fois, Jean 3,16. Il y en a d'autres, plusieurs d'autres passages. Mais celui-là, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je suis devenu une nouvelle créature. Dès ma nouvelle naissance, mon vide spirituel créé par Dieu, il est créé, le vide en moi, en toi. Mon vide est créé par Dieu en moi. Dès l'origine de l'humanité est comblé par l'Esprit Saint, comme l'a accompli le Seigneur au soir de la résurrection. Il suffit de lire Jean chapitre 20, verset 22, et quand l'Esprit Saint leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a comblé un vide créé dès l'origine par Dieu dans l'homme. Je le crois, car c'est écrit dans la parole de Dieu. Et si c'est écrit dans la Bible, alors je saisis cette réalité par la foi. La foi, ce ne se fabrique pas. La foi aussi, c'est un don de Dieu. En fait, la boucle est bouclée. La Bible a dit, tout vient de lui, par lui et pour lui. Si aujourd'hui encore, nous nous disons, je peux faire quelque chose, le Seigneur a beaucoup de chemin avec nous. Jusqu'au jour où on lui dit, par expérience, pas seulement intellectuellement, par expérience, je ne peux rien. Et quand dans la pratique, par expérience, je lui dis, je ne peux rien, c'est à ce moment-là qu'il commence son œuvre en nous, il dit, ah maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Galates 2:20. Ma nouvelle naissance est synonyme de l'accueil et de la réception de Christ en moi. En ce moment même, vous devez savoir qu'en tant que chrétien né de nouveau, nous avons Christ en nous. C'est la glorieuse bonne nouvelle et rien ne doit nous aveugler pour nous cacher cette réalité. Si nous avons reçu Christ en nous, nous avons reçu aussi tout avec lui. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. Ils ont ajouté pleinement pour ceux qui ont des doutes. On a ajouté pleinement. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. La meilleure réponse et le meilleur exemple que nous pouvons avoir est le parcours même du Seigneur ici-bas. En effet, après son baptême, le Seigneur a reçu l'Esprit du Père, comme nous pouvons le lire dans Matthieu 3, 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas venu d'un seul coup. C'est la même chose pour nous. Lors de notre conversion, lors de notre baptême, qui est une déclaration à la fois visible et humaine, mais surtout spirituelle et invisible, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et surtout que les cieux se sont ouverts aussi pour nous. Et le Père Céleste a déclaré pour chacun de nous, « Tu es mon Fils. » Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Par ces déclarations qui accompagnent notre réception de l'Esprit-Saint, nous sommes devenus des êtres célestes. Notre identité céleste nous donne à présent le droit de marcher comme celui qui nous a accordé cette identité. Cette identité céleste nous permet de marcher en nouveauté de vie. C'est parce que je suis céleste que je peux marcher en être céleste. L'identité céleste n'est pas une conséquence, mais une origine et une cause de ma marche de tous les jours. Je ne cherche pas à être céleste, mais ce n'est pas ça le raisonnement chrétien. Je marche en tant que chrétien parce que je suis céleste. Donc le céleste, ce n'est pas l'objectif, c'est déjà acquis en Christ, nous le sommes. Et qu'en réalisant cette réalité-là, nous marcherons tous les jours en tant qu'être céleste. Néanmoins, il faut réaliser le besoin pour recevoir cette identité. De même, pour notre identité céleste en Christ, il faut réaliser le besoin d'acquérir cette identité pour l'expérimenter, la savourer et l'apprécier dans notre être intérieur. Quand nous réalisons ce besoin fondamental, alors le Seigneur nous dira « D'accord, mais votre identité humaine déchue doit mourir, car je l'ai crucifiée avec moi. » Devant ce dilemme, entre vivre avec ma nature, j'y tiens, mais donc profiter de la vie, etc. Et en même temps, je sais que je suis céleste. Le chrétien, au début, on est comme ça, même toute la vie. Il y a ce dilemme. Devant ce dilemme, nous sommes confrontés à un choix très difficile. Ma nature humaine, qui ne veut rien lâcher, au meilleur des cas, elle sélectionne ce qu'elle veut lâcher. Et d'un autre côté, Christ qui se tient à la porte et qui frappe, car il n'attend qu'une chose de nous, que nous acceptions d'abandonner totalement notre identité humaine. C'est le début du compromis, je dirais presque normal, naturel, dans la vie chrétienne. Il est normal quand ça dure un peu de temps, mais il est anormal quand ça dure des années. Au début de la conversion, quand on est chrétien, il y a ce compromis, cette guerre, c'est normal. Mais si c'est toute la vie chrétienne, il y a ce compromis, c'est ce que la Bible appelle le chrétien charnel. Ce sont les Corinthiens. Lisez les Corinthiens, c'est exactement, ils ont vécu cela. L'identité céleste ne reconnaît pas la nature humaine aliénée et déchue. La nature céleste ne peut pas cohabiter avec une nature qui a exigé un grand sacrifice du Fils de Dieu. L'identité humaine non régénérée est une identité déchue qui ne sert pas Dieu, car elle est au service de l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, l'a crucifié avec son Fils Jésus-Christ. Mais à la place de cette nature déchue, Dieu nous propose une nouvelle identité, une nouvelle nature. C'est une nature céleste qui a un nom, Jésus-Christ. Les deux identités, la mienne et celle de Dieu, sont opposées, car l'une condamne l'autre. L'identité céleste ne reconnaît pas l'identité terrestre, humaine, déchue, car elle la voit crucifiée sur la croix avec le Seigneur Jésus. Et l'identité humaine, celle qui dit « Non, je crois à ce que je vois. Non, il faut vraiment que je démontre. Il faut que si on met l'homme au centre, cette identité-là, elle est déchue, elle rejette l'identité céleste, car la reconnaître, c'est reconnaître sa mort et sa disparition. Comment voulez-vous que l'identité humaine reconnaisse l'identité céleste? L'identité céleste, elle dit que tu dois mourir. Elle doit être maso, quoi, cette identité humaine. Il est naturel qu'elle ne peut pas aller avec l'identité céleste. Elle ne veut pas être au service de l'identité céleste. Croire que les deux natures peuvent cohabiter, c'est accepter le compromis. C'est-à-dire plaire au monde tout en cherchant à avoir une bonne conscience chrétienne dans ce monde. C'est faire plaisir au monde qui nous entoure en s'y adaptant, alors que le Seigneur a condamné et jugé le monde. C'est être chrétien tout en se comportant comme les gens du monde aliénés. Quand je dis aliéné, c'est dans le sens hors du plan de Dieu. Quand j'agis en général de la sorte, c'est que je n'ai pas découvert réellement la richesse qui se cache en moi. Je ne réalise pas au-delà de mes sensations, de mes capacités intellectuelles, le trésor que je possède en moi. En fait, je ne réalise pas réellement ma pauvreté spirituelle. Je ne réalise pas le vide qui est en moi. Donc je continue à croire que je peux faire quelque chose. Je ne réalise pas que rien de bien n'habite en moi. Je ne réalise pas mon besoin réel de Dieu. Je ne réalise pas mon besoin de l'œuvre de la croix. Je ne réalise pas la saleté et l'aliénation de ma nature. Je ne réalise pas que je suis hors du plan de Dieu. Je ne réalise pas que je suis dans le mal. Et le mal, dans l'hébreu, c'est hors du plan de Dieu. Tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu s'appelle mal. En résumé, je n'ai pas eu une véritable conviction de péché qui me mène à la repentance. Je ne parle pas de la repentance qui se contente d'énumérer ce qui me paraît mauvais devant Dieu, mais de la repentance qui va jusqu'à reconnaître que notre nature adamique, notre nature humaine entière, est mauvaise devant Dieu, y compris ce qui me paraît bon. C'est l'expérience de tous les hommes de Dieu, et parmi eux, nous pouvons citer trois: Paul, Ésaïe et Job. L'apôtre Paul s'est écrié dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul s'est écrié aux Romains: « Misérable que je suis !» C'est lui qui utilise « misérable que je suis ». Quelle expression je dois utiliser pour moi ?« Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Dans sa vision, il a vu le Seigneur sur son trône. Le prophète Ésaïe a crié dans Ésaïe 2:5, vous pouvez le lire: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Quand Dieu s'est révélé en s'adressant directement à Job, ce dernier a confessé du fond de son être dans Job 42:5: « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Mon œil t'a vu, c'est-à-dire à travers l'expérience qu'il a vécue. L'expérience lui a fait vivre sa communion avec Dieu autrement. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » La clé de notre obéissance à Dieu, afin de réaliser la richesse qui est en nous, et surtout pour honorer l'identité céleste que nous avons, il y a un instrument, c'est la repentance. La repentance sincère est la base de tout bon cheminement avec Dieu. Sans la repentance sincère, je continuerai à servir deux mondes. Sans la repentance, je continuerai à marcher selon deux natures opposées, dans deux identités opposées. L'identité terrestre aliénée et l'identité céleste glorieuse. La repentance est le chemin vers la sanctification. La repentance, elle me mène vers cette nouvelle identité. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 24: nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est-à-dire le monde, l'argent, etc. Servir deux maîtres, c'est-à-dire Dieu et le monde, c'est non seulement remettre en question l'œuvre extraordinaire accomplie par le Seigneur sur la croix du calvaire, mais insulter, et j'utilise le mot insulter, notre Dieu même. J'utilise délibérément ce mot insulter, car le Seigneur a utilisé un autre mot plus fort encore que insulter. Il a utilisé le verbe vomir. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 20, je lis ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que Dieu l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je reconnais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi. » Les destinataires de ce message sont des chrétiens. Ce ne sont pas des non-chrétiens, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire, ce message s'adresse à nous. Ce message s'adresse à des chrétiens qui forment l'église de Laodicée. Le message ne s'adresse pas à des incroyants, mais à des chrétiens comme à vous et à moi. De plus, il est précisé que ce sont des chrétiens actifs, puisqu'ils œuvrent pour Dieu. Verset 15. À travers ce message, le Seigneur dresse un constat. Tu n'es ni froid ni bouillant, c'est-à-dire des chrétiens qui baignent dans le compromis. Des chrétiens qui servent deux maîtres. Des chrétiens avec une nature non crucifiée. Des chrétiens où le moi est bien vivant et qui dirige tout. Face à ce constat, le Seigneur prononce un jugement terrible. Je te vomirai de ma bouche. C'est plus fort que le verbe rejeter ou ignorer. Cette attitude provoque le dégoût de Dieu jusqu'à en vomir. Nous rendons compte de ce constat et de ce jugement. Mais le Seigneur est bon, car il nous dit qu'il reprend et qu'il châtie ceux qu'il aime. Ce n'est pas pour notre bon plaisir, mais pour l'avancement de son royaume. C'est pour préparer son église, celle qui va à la rencontre, les noces de l'agneau. Il veut que cette église qui ira à la rencontre des noces de l'agneau soit pure, soit sanctifiée. Et surtout, parce que notre Seigneur est un Dieu jaloux qui veut sanctifier son Église. Justement, cette sanctification commence par la repentance. C'est dans ce domaine que je dois avoir du zèle, puisqu'il est écrit en deuxième partie du verset 19, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Lequel de zèle est demandé pour nous ? C'est le zèle de la repentance. Dans le serment du Seigneur sur la montagne, nous lisons Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous avons eu l'occasion d'étudier les béatitudes. Et la traduction de ce verbe, encore une fois, qui est un peu tronqué dans nos traductions, la traduction dit « Heureux ceux qui réalisent qu'ils sont pauvres en esprit. Heureux ceux qui réalisent qu'ils sont vides, qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. » Et en réalisant cela, ils seront disponibles pour recevoir l'esprit de Dieu. La richesse spirituelle ne peut se recevoir et s'apprécier qu'après une sainte conviction d'un vide spirituel. Il faut découvrir sa pauvreté spirituelle pour que Dieu nous comble de sa richesse. Sinon, comment peut-on savoir qu'on en a besoin si nous ne réalisons pas ce besoin? Rechercher la richesse sans éprouver le besoin à travers la découverte d'une misère spirituelle, c'est avancer dans la vie chrétienne sans fondement. C'est le reproche qu'a fait le Seigneur à l'église de Laodicée, qui se croyait riche et qu'elle n'a besoin de rien, alors qu'en réalité, elle est pauvre et aveugle spirituellement. L'église de Laodicée centrait tout sur l'homme. Alors le Seigneur la rappelle à l'ordre en lui demandant de se purifier et de se sanctifier comme l'or qui se purifie par le feu. En effet, Le feu joue un rôle primordial dans le processus d'extraction de l'or pur. Il intervient dans les différentes étapes de la fabrication de l'or pour éliminer toutes les impuretés. C'est le sens même de l'œuvre de la croix dans la vie du croyant chrétien. La croix est l'instrument par excellence pour faire mourir les œuvres de la nature humaine déchue. La croix permet la régénération de l'homme en se séparant de ce qui appartient à la nature déchue, afin de la remplacer par une nature restaurée et régénérée. Tout doit passer par la croix. Tout doit passer par la croix. Si on évite la croix, on évite le chemin instauré par le Seigneur, l'unique chemin instauré par le Seigneur. Le Seigneur, en mourant sur la croix, nous a portés avec lui pour nous libérer pour nous libérer de notre être aliéné et nous purifier. C'est ce que demande le Seigneur à l'église de Laodicée. Sans cette purification et cette sanctification par la puissance de la croix, le chrétien ne pourra jamais intégrer le plan et la volonté divine. Dieu nous regarde à travers la croix, et tout ce qui ne passe pas par la croix est rejeté, et même plus, il est vomi par le Seigneur. C'est à la croix que notre être intérieur est remis en mouvement. C'est à la croix que nous sommes libérés de la tyrannie du monde et de notre nature aliénée. C'est à la croix que l'ennemi de nos âmes, le diable, est vaincu. Et c'est seulement à la croix qu'il est vaincu. C'est à la croix que le sang du Seigneur a coulé pour nous laver et pour nous vêtir d'un vêtement blanc qui représente notre nature céleste. La croix est l'instrument de grâce et d'amour que Dieu met à notre disposition pour nous faire accéder à notre réalité cachée avec Christ en Dieu. Tout part de la croix et tout chemine à travers la croix. Et en dehors de la croix, il n'y a que mensonge et illusion. La dernière déclaration du Seigneur dans notre passage du livre de l'Apocalypse est la suivante. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur ne nous quitte jamais. Il est tout près de nous. Il se tient à la porte de notre cœur avec sa nourriture spirituelle. Il n'attend qu'une chose, que nous lui ouvrions notre cœur, que nos oreilles et nos yeux spirituels s'ouvrent et qu'enfin nous l'invitions à prendre contrôle de tout notre être et qu'il accomplisse son œuvre en nous. C'est tout ça l'amour de Dieu, concentré en son Fils unique Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est notre véritable identité. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Amen.